France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Anouk Millot, Sacha Mattei et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le dernier volet de notre série sur différents modèles d'audiovisuel public mis en cause au sujet de leur financement, de leur impartialité, alors que Radio France et France Télévisions sont en ce moment passés au crible par une commission parlementaire. Après la crise de confiance à la BBC dont nous avons parlé lundi, après l'Allemagne où le réseau public va devoir se serrer la ceinture, ou encore la Hongrie et la Slovaquie où le pouvoir s'immisce aujourd'hui dans les lignes éditoriales, nous parlons ce matin des États-Unis, des médias publics sans argent public.
PBS News n'est pas simplement de gauche. La chaîne profite des financements publics et donc des contribuables pour servir un agenda et des discours radicaux dans ses émissions, par exemple en faisant apparaître un drag queen dans le programme éducatif Let's Learn.
PBS et NPR dépensent plus d'argent qu'aucun autre réseau de ce type. Tout cet argent est jeté par les fenêtres. Ils financent des journalistes partiaux. Ce serait un honneur pour moi d'en finir avec ce système.
C'est probablement la plus grande menace à laquelle les médias publics du pays ont dû faire face depuis leur création. Les fonds qui avaient été votés pour les financer risquent d'être supprimés.
C'est un réseau de radio et télévision sous l'autorité de maisons mères, NPR pour la radio, PBS pour la télévision, 1500 chaînes ou stations locales émettant à travers les montagnes, les déserts, les tornades, les chemins vicinaux crevés d'ornières et les buildings, de New York à l'Alaska en passant par le Kansas et le Montana. Un service public de l'audiovisuel qui a toujours appris à faire avec peu de moyens. L'argent fédéral n'a jamais représenté plus de 10% de leur budget et encore c'était dans les années fastes. Reste que le décret publié par Donald Trump en mai dernier et qui annule les financements fédéraux pour tout l'audiovisuel public lui inflige un énorme coup pas loin d'être fatal. Le président l'accuse d'être partial, d'entretenir un entre-soi progressiste pour le dire poliment. Et voilà l'audiovisuel public déjà marginal dans un paysage médiatique saturé d'opinions tranchées qui est remise en cause jusque dans ses émissions éducatives les plus anciennes et renommées. Comment l'audiovisuel public a-t-il été pensé aux États-Unis et quelle définition du service public porte-t-il? Comment se défend-il aujourd'hui de ces accusations portées? Bonjour Alexis Pichard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Université Paris-Nanterre, auteur du livre « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre » paru au VA édition, édition VA en 2020. Nous sommes également en duplex depuis ici Armorique à Rennes avec Anaïs Lefebvre-Berthelot. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rennes. Merci à tous les deux d'être avec nous pour parler de l'audiovisuel public aux États-Unis qui est assez particulier par rapport ou en comparaison de tous les autres que nous avons passés au crible cette semaine, qui sont surtout passés au crible à la fois des opinions publiques mais surtout des politiques. D'abord, pour inscrire cette discussion dans une histoire plus longue, Anaïs Lefebvre-Berthelot, quelle était l'intention du président Lyndon Johnson quand il fait passer en 1967 le Public Broadcasting Act qui crée l'audiovisuel public? C'est assez tard d'ailleurs par rapport aux autres.
Oui, effectivement, c'est tard. Et en fait, 1967, c'est une date clé, mais ce n'est pas le début de l'audiovisuel public vraiment, puisque on a une tradition d'audiovisuel privé, mais à but non lucratif, surtout éducatif, mais aussi un petit peu religieux, qui naît dès le début de la radio, hein, dans les années 20, dans les années 30. Avec des radios universitaires, et on a aussi quelques exemples de radios municipales dans ces années-là. Et donc, en fait, c'est sur ces infrastructures préexistantes que va ensuite se construire ce qu'on appelle l'audiovisuel public états-unien dans les années 60. Et si Johnson est le président qui a signé cette loi, il n'était pas forcément à l'origine de de la mise en place de ce système d'audiovisuel public. Il a vraiment été très influencé par des activistes qui étaient notamment dans les universités et qui ont défendu cette idée de médias non commerciaux qui porteraient une diversité de paroles et qui auraient aussi une mission éducative.
Est-ce qu'il a néanmoins dans ses discours, même si en effet il y a été poussé par des associations, mais dans ses discours, ce président Johnson, qui par ailleurs a son projet de Great Society, qui consiste à lutter contre toutes les formes d'inégalité sociale, est-ce qu'il place l'audiovisuel public dans ce cadre-là en disant qu'il y a un rôle social à jouer via le service public de l'audiovisuel ?
Oui, absolument. Et effectivement, le projet de la Great Society, c'est un projet aussi de redéfinition du rôle de l'État fédéral, avec l'idée que l'État fédéral n'est pas là seulement pour réguler les infrastructures, comme c'était le cas avant, notamment dans le cas des médias audiovisuels, mais qu'il y a aussi un enjeu à assurer des conditions de vie dignes, à assurer une certaine liberté aux citoyens, aux citoyennes des États-Unis, et que les médias publics peuvent jouer ce rôle-là et donc avoir un rôle, et c'est ce qu'il dit quand il signe la loi en 1967, il dit que l'audiovisuel public va avoir un rôle de développement culturel, un rôle éducatif, un rôle de faire écho à la diversité du pays et aussi d'encourager le développement de la créativité.
Dans quelle mesure, Alexis Pichard, est-ce qu'il s'appuie, et dans les années qui viennent, dans quelle mesure est-ce qu'on s'appuie pour développer cet audiovisuel public sur les médias qui existaient déjà et que vient de rappeler Anaïs Lefebvre-Berthelot, médias éducatifs, radio universitaire, tout ce qui existait, qui rendait déjà une forme de service public?
Alors, je pense que ce sont surtout les missions que vont adopter justement ces médias qui vont rendre compte de l'appui sur lequel, enfin des chaînes ou en tout cas des réseaux sur lesquels c'était appuyé, mission éducative, mission informationnelle, mission culturelle, et on voit que les programmes qui vont se développer ont tous vocation à servir justement ces missions de service public qui ont pour but justement d'éduquer la nation et de faire nation, en fait, de faire État, de faire société. Et ça, je pense que ça anticipe un peu ce qu'on dira tout à l'heure, mais ça quadrille en fait le territoire américain, que ce soit les stations de radio qui sont, je crois, sur NPR, c'est plus d'un millier, et 350 stations de télé pour PBS. Donc c'est une manière aussi d'apporter l'information et l'éducation au plus près des téléspectateurs de tout, vraiment de tous les États et de toutes les régions, pour éviter justement que certaines régions soient désertées par les médias publics. Et ça, c'est un enjeu dans une démocratie comme les États-Unis.
Est-ce que ce réseau s'est étoffé au fil des années, Anaïs Lefebvre-Berthelot, ou dès la fin des années 60, il est à peu près, il ressemble déjà à ce qu'il est aujourd'hui?
Non, il a pu effectivement s'étoffer, mais c'est vrai que ce qui est important à comprendre, c'est que le Public Broadcasting Act en 67, il ne crée pas de nouveaux médias. C'est-à-dire que ce qu'il va créer, c'est une structure qui permet de fédérer des acteurs déjà existants, des stations de radio, des chaînes de télévision locales, qui vont s'affilier à des maisons-mères que vous avez mentionnées dans l'introduction, donc NPR pour la radio, créée en 70, et PBS créée en 69. Et ces réseaux-là, en fait, vont vraiment fonctionner de manière indépendante, locale, et prendre certains programmes qui sont offerts par les structures nationales. Mais on est vraiment sur un système très indépendant, et donc qui va être souvent aussi... susceptible d'évoluer en fonction des réalités locales. Donc s'il y a un soutien de certaines institutions, d'universités, mais aussi de gouvernements, d'États, on peut avoir des stations qui émergent ou qui disparaissent.
Alors aujourd'hui, on estime à peu près à 43 millions le nombre d'auditeurs pour NPR. Donc c'est pas une radio, hein, on l'a bien expliqué, ce sont des centaines de radios qui sont adossées à cette maison mère. 36 millions de téléspectateurs pour les télévisions de PBS. Le journal de PBS News, par exemple, ce journal quotidien diffusé en soirée sur plus de 350 chaînes de télévision affiliées à PBS, rassemble en moyenne chaque jour 1 100 000 téléspectateurs.
Good evening, I'm Amna Nawaz.
And I'm Jeff Bennett. On the NewsHour tonight, President Trump gets his worst economic approval ratings ever in a new PBS News poll, as Americans worry about affordability.
Extrait du journal d'hier, tout simplement. President Trump, décidément Donald Trump, un sujet niche. Dans un communiqué publié en même temps que son décret dont on va parler, Donald Trump qui annule les financements pour l'audiovisuel public, la Maison-Blanche accusait la NPR et PBS d'avoir alimenté le militantisme et la propagande de gauche, assurant par exemple qu'en 6 mois, cette émission dont on vient d'entendre un extrait, PBS NewsHour, avait utilisé le terme extrême droite 162 fois, mais extrême gauche seulement 6 fois. Il y a vraiment un débat sur la façon aujourd'hui dont sont traitées les informations sur ces chaînes de radio publique qui sont censées être les plus impartiales et pluralistes possibles. D'abord, dès le départ, comme c'est le nerf de la guerre, l'histoire du financement, dès le départ dans les années 60, Anaïs Lefebvre-Berthelot, comment est décidée, comment est arbitrée la somme d'argent public qui leur est allouée?
Dès le départ, il y a un souci à la fois d'isoler l'audiovisuel public de potentielles pressions politiques, donc de ne pas créer un média d'État. Et en même temps, il y a aussi le souci de conserver une forme de contrôle grâce au financement. Et donc, la loi ne crée pas de financement pérenne, mais demande au Congrès d'allouer un budget, de rediscuter le budget tous les ans. Et en fait, le budget est alloué pour 2 ans. Voilà, c'est ça qui se dessine. Mais avec cette idée que puisque ça va être rediscuté chaque année par les représentants, il va y avoir aussi une forme de surveillance politique de ces médias.
Que dire de son montant au gré des alternances politiques? Alexis Pichard, est-ce que c'est aussi simple que les démocrates ont toujours essayé de maintenir les budgets et les républicains de les réduire, ou c'est un petit peu plus compliqué?
Je pense que cette caricature vaut pour réalité. C'est vrai que ça fait très longtemps, et déjà sans remonter peut-être jusqu'aux origines des médias publics, mais George Bush Jr. ou bien même Reagan, ils ont eu justement à cœur de réduire les financements pour les médias publics, pour 2 raisons. Soit parce qu'ils considéraient que c'était des médias qui servaient justement les intérêts des démocrates et non pas ceux des républicains, donc c'était des médias partisans. Et la deuxième raison, c'était la raison fiscale et économique, c'est-à-dire que ce sont les Américains, les citoyens américains qui payent justement une forme de redevance. Donc je crois que par Américain, c'est 1,60 $, donc c'est quand même pas grand-chose.
Par Américain,
oui, pour financer justement, au total, en moyenne, ça revient à ça, pour financer les médias publics américains. Donc c'est une microsomme, mais c'est une dépense, et les républicains, généralement, traditionnellement en termes économiques, sont pour la réduction des dépenses publiques et donc du budget alloué à ces médias publics.
Alors le décret pris par Donald Trump, c'était au mois de mai. Est-ce qu'il a été aussitôt appliqué? Donc encore une fois, supprimer tous les financements dirigés vers l'audiovisuel public, est-ce qu'il a été aussitôt appliqué alors qu'a priori les questions budgétaires relèvent des prérogatives du Congrès? Est-ce que la légalité de ce décret est contestée aujourd'hui, Alexis Pichard?
En fait, il y a 2 choses. C'est-à-dire que, d'une part, en mai, effectivement, Donald Trump a émis une ordonnance qui stipule que la CPB, donc l'autorité indépendante qui est en charge justement de répartir les fonds, ne doit plus financer les médias publics, que ce soit NPR ou PBS. Et à la suite, en juillet, le Congrès, à majorité républicaine, a décidé de supprimer $1 milliard de subventions fédérales allant justement à ces médias publics. Donc c'est quelque chose qui est en 2 temps, en fait. Le définancement, premièrement, orchestré par la CPB par le biais de l'ordonnance trumpiste, et ensuite le Congrès qui à légiférer sur cette question en supprimant 1 milliard de dotations. Et NPR, attaqué en justice Donald Trump sur justement cette ordonnance qu'elle juge anticonstitutionnelle, au sens où être accusé d'avoir un biais démocrate, c'est très dur à démontrer parce que Donald Trump ne l'a pas démontré. Et surtout, il y a un deuxième effet, c'est que la liberté de la presse et la liberté éditoriale fait partie du premier amendement de la Constitution, et en cela, Donald Trump irait à l'encontre de ce premier amendement.
Donc NPR a intercédé aux côtés d'autres réseaux de médias publics moins connus. Elle s'est jointe à 3 stations, Colorado Public Radio, basée à Denver, Aspen Public Radio, qui diffuse dans la vallée de Roaring Fork, dans le Colorado aussi, et puis une autre radio écoutée par des tribus indiennes, 4 tribus indiennes sur 4 États, et ensemble ils ont porté ce recours devant la justice. Est-ce qu'on a déjà des audiences, des comptes rendus? Est-ce qu'on sait comment se positionne le juge qui s'est emparé de cette affaire?
Alors c'est un juge qui est plutôt de tendance démocrate. En fait, il a quelques doutes sur l'argumentaire qui est développé par les avocats de l'administration Trump, qui avance en fait la théorie de l'exécutif unitaire. Je pense qu'on en parlera plus tard.
Mais allez-y, vous pouvez. C'est une théorie élaborée par les conservateurs dans les années 80.
Exactement, qui a une conception très extensible de la présidence, c'est-à-dire que tout ce qui appartient au précaré exécutif, du coup, dépend de l'autorité présidentielle. Donc que ce soit les ministères, les agences fédérales, gouvernementales ou bien les médias publics, tout ça fait partie du domaine réservé du président et donc il a la primauté sur la gestion et les nominations de ces agences. Et le juge en question, dans des audiences préliminaires, s'est dit peu convaincu par le bien fondé de cette analyse à l'aune de la décision qui a été prise par l'ordonnance. Et d'un autre côté, il a aussi dit que l'argumentaire de NPR était un peu léger au sens où c'était difficile de voir cela comme une censure pour faire cesser d'émettre NPR, alors que c'est pas forcément le cœur de l'ordonnance qui a été sur le définancement. C'est-à-dire qu'en fait, NPR pourrait continuer à survivre malgré le définancement étatique.
Parce qu'encore une fois, les budgets fédéraux n'ont jamais représenté que 1 à 10% vraiment dans le meilleur des cas, mais je ne sais même pas si ça atteint 10% des budgets de ces radios.
Mais vous avez absolument raison, et c'est principalement des financements privés, des sponsors, des mécénats et des dons d'individus. Et en ce moment, effectivement, sur NPR, on a beaucoup de campagnes dans les programmes, dans les podcasts qui sont lancés pour obtenir des financements d'individus, de citoyens américains.
Et beaucoup de pubs aussi, beaucoup de publicité sur ces chaînes ?
Alors, il n'y a pas de publicité à proprement parler, c'est des sponsorats, donc c'est un peu comme, si vous voulez, France Télévisions après 20h, c'est-à-dire qu'il y a des sponsors qui annoncent les programmes, mais il n'y a pas de publicité à proprement parler entre les programmes.
Alors, Anaïs Lefebvre-Berthelot, cette théorie de l'exécutif unitaire qui consiste à privilégier cette interprétation maximaliste des prérogatives du président qui affirme que tout le pouvoir exécutif revient au président, cette théorie dénie par exemple l'indépendance des agences fédérales. Est-ce que, appliquée aux médias publics, est-ce que la CPB, la Corporation for Public Broadcasting, qui gère le budget de l'audiovisuel public, est l'une de ces agences? Est-ce qu'elle a été consultée? Que dire de cette institution qui semble pour l'instant être assez court-circuitée?
La CPB là, est en train de disparaître. Et en fait, la CPB n'est pas une agence fédérale.
D'accord.
C'est une agence en fait para-fédérale, enfin, para-gouvernementale si vous voulez, mais c'est une institution de droit privé à but non lucratif, dont les statuts sont effectivement régis par le Public Broadcasting Act de 67, qui dit notamment qu'il y a un conseil d'administration qui doit être paritaire en termes de représentation partisane, donc pas plus de 5. Donc il y a 9 membres, il me semble, et donc il ne faut pas qu'il y en ait plus de 5 républicains ou 5 démocrates. Il y avait cette idée d'une institution bipartisane, et donc ce que fait la loi adoptée en juillet, c'est de supprimer les fonds qui avaient précédemment été alloués à la CPB. Et donc là, il y a une conséquence directe qui est que la CPB a annoncé l'arrêt de ses opérations au 30 septembre, qui est la fin de l'année fiscale. Et donc ils existent encore, mais ils sont une petite dizaine, en gros, à fermer les bureaux.
Alors vous parlez de loi, puisqu'en effet ce décret présidentiel a été suivi d'un vote au Congrès qui à son tour a supprimé les lignes budgétaires consacrées à l'audiovisuel public, au Congrès où de nombreux élus, comme Marjorie Taylor Greene par exemple à la Chambre basse, accusent la télévision publique de mépriser ceux et celles qui ont voté pour Donald Trump. Elle s'adresse ici à la PDG de NPR, Catherine Maher.
You called him a deranged racist.
Vous avez traité le président Trump de raciste dérangé et de dangereux sociopathe. Vous avez affirmé que les États-Unis étaient accros au suprémacisme blanc. C'est lamentable. Vous refusez les phrases mentionnant les filles et les garçons, car vous estimez, je cite, qu'elles invisibilisent les non-binaires. Au passage, il n'y a que deux genres. Miss Maher, les fonds fédéraux qui vous financent viennent de tous les contribuables américains et pas seulement de vos auditeurs qui soutiennent vos thèses. Permettez-moi de vous rappeler que cet argent public provient aussi de l'autre moitié du pays, des 77 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, celui que vous qualifiez de raciste dérangé et de dangereux sociopathe.
Est-ce que l'audiovisuel public a toujours été accusé de pencher côté démocrate ou, comme on dirait en Europe, de pencher à gauche avant même que le terme woke existe, Alexis Pichard ?
Oui, ça remonte effectivement à loin. Mais ce qui est paradoxal, c'est que PBS se targue depuis 20 ans, sondage après sondage, et c'est vrai, c'est quelque chose qui est vérifié, d'être le média le plus reconnu, en tout cas le plus cru, de tous les médias américains. Et pareil, NPR a un taux d'approbation et de confiance qui est assez haut, à 53%. Alors bien sûr, il y a des fractures partisanes, c'est-à-dire que les démocrates et les modérés vont plus favoriser des médias comme NPR et PBS. Mais en tout cas, c'est malgré tout, malgré les attaques que l'on peut entendre, ce sont deux médias qui sont quand même très respectés outre-Atlantique et qui font autorité dans leur manière de traiter l'information. Et je prends juste le cas de PBS parce que c'est une chaîne que je regarde assez fréquemment. La qualité des documentaires que l'on voit sur PBS, et j'ai travaillé à l'adaptation pour Arte de l'un d'entre eux cet été sur Trump et la loi, sont vraiment des documentaires qui ne sont pas à charge, hein, qui font intervenir le contradictoire. Par exemple, dans ce documentaire, il y avait Steve Bannon et d'autres juristes de Donald Trump. Donc ce ne sont pas des pamphlets anti-gouvernement. Au contraire, ce sont des documentaires très sourcés et qui font autorité parce qu'ils sont adaptés même dans d'autres pays.
Alors Anaïs Lefebvre-Berthelot, à ce sujet, est-ce que ces chaînes publiques sont accusées d'être de gauche dans l'absolu ou de gauche par rapport aux autres, au paysage audiovisuel en général ?
En fait, ces accusations-là, elles surgissent à des moments où le Parti républicain a besoin de mobiliser sa base. Et ça remonte vraiment à Nixon, puisque Nixon, déjà, donc on est dans la fin des années 60, essaye de décrédibiliser l'audiovisuel public, notamment parce que l'audiovisuel public retransmet les investigations liées au Watergate du début jusqu'à la fin, ce que ne font pas les médias commerciaux. Donc ces accusations qu'on retrouve sous Reagan, qu'on retrouve sous Bush, qu'on va retrouver aussi quand les républicains récupèrent la majorité à la Chambre dans les années 90 sous Clinton, elles sont vraiment souvent mobilisés pour attiser un peu la base républicaine avec la mise en scène d'une polarisation où il y aurait des médias d'élite. C'est plus ça en fait qu'on va reprocher pendant un certain temps, ça va être que les médias audiovisuels sont des médias d'élite qui ne prennent pas en compte la majorité du peuple des États-Unis.
La Maison-Blanche dit justement que le financement fédéral se justifiait dans les années 60, mais qu'aujourd'hui, dans un paysage, je cite, médiatique, riche, divers et innovant, il est devenu dépassé et non nécessaire, parce que trop élitiste alors.
Parce que trop élitiste, non. Et puis, il faut vraiment aussi souligner ici que ces attaques-là, elles sont de mauvaise foi. C'est-à-dire que si on s'inquiète vraiment de la diversité et de la pluralité des médias aux États-Unis, le problème, ce n'est absolument pas les médias publics qui, effectivement, comme le soulignait Alexis Pichard, font un travail qui est reconnu et qui s'appuie sur des faits. Le problème, c'est la concentration médiatique. Ce sont les logiques commerciales qui font qu'il va y avoir une course à l'audience et que donc certains sujets vont être beaucoup plus traités que d'autres, et notamment que Trump va être omniprésent dans les médias. Et les républicains sont notamment ceux qui ont mis un terme à la Fairness Doctrine dans les années 80 sous Reagan, qui était un type de régulation qui obligeait les médias, tous les médias, pas juste les médias publics, à traiter des questions d'intérêt public et à en présenter les deux côtés. Et ils se sont opposés à ça. Donc quand il y a des grands discours sur vous vous rendez compte, c'est scandaleux, il y a un traitement biaisé de l'information, il faut toujours se rappeler que ça vient de personnes qui n'ont pas à cœur de diffuser une information qui s'appuie sur des faits et sur le contradictoire.
Donc le simple fait de ne pas être des médias d'opinion et d'accorder de la place aux faits et contradictoires fait que ces médias publics se retrouvent assez marginaux dans un paysage audiovisuel où depuis les années 80, avec la libéralisation des médias sous Reagan et l'apparition du câble, on a vu exploser le nombre de talk-shows conservateurs notamment. Alors les démocrates, eux, qui sont plutôt aujourd'hui dans une démarche de soutenir l'audiovisuel public par discours communiqué, ils ont pensé toucher la corde sensible dans leur campagne en disant, pour défendre donc le service public, que Donald Trump s'attaquait à Elmo, c'est cette marionnette d'un programme éducatif pour enfants qui s'appelle Sesame Street. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elmo, elle ressemble à quoi? À une grenouille en pâte de bonbons. Je sais pas, non, c'est plutôt de la peluche, je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est une petite marionnette rouge. Et donc, il y a un élu démocrate du Congrès, Robert Garcia, qui a interrogé à ce sujet la PDG de PBS, Paula Kerger, et c'est bien sûr pas à prendre au premier degré.
Nous sommes ici pour attaquer NPR et PBS. Maintenant, Miss Kerger, les Américains veulent savoir. Est-ce qu'Elmo la marionnette est ou a déjà été un membre du Parti communiste? Répondez par oui ou non.
Non.
En êtes-vous vraiment sûr, Miss Kerger? Parce qu'Elmo est indiscutablement tout rouge.
Je rappelle qu'il n'est qu'une simple marionnette, mais non.
Et maintenant, parlons de quelqu'un d'autre, de Cookie Monster, par exemple. Nous avons entendu dernièrement notre ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., s'élever contre les fast-foods et les pâtisseries. Est-ce que ces déclarations reviennent à invisibiliser les partisans de Cookie Monster?
Les cookies doivent rester un plaisir occasionnel.
J'aimerais maintenant que nous parlions d'un des personnages les plus importants de Sesame Street, j'ai nommé Big Bird. Madame Kerger, puisqu'Elon Musk a licencié les fonctionnaires du ministère de l'agriculture qui luttait contre la grippe aviaire. Doit-on également virer Big Bird?
Nous aimerions garder Big Bird.
Et nous aussi, Alexis Pichard, défendre le duvel public par l'absurde, c'est tout ce qui reste aux démocrates aujourd'hui?
Oui, alors je pense que l'absurde sert à faire ressortir, de fait, le caractère complètement déconnecté, en tout cas à côté de la plaque de certains républicains qui vont jusqu'à s'en prendre effectivement à des programmes pour enfants. Et c'est finalement une cabale que l'on voit de la part des ultra-conservateurs depuis assez longtemps. Disney, les films Disney sont trop woke, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne fonctionnent pas, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu, notamment pour Blanche-Neige. Et il y a cette idée que effectivement les enfants américains sont endoctrinés par la pensée woke, la pensée, c'est-à-dire plutôt de gauche, qui est ouverte, inclusive sur les questions de représentation des personnes transgenres, des personnes LGBTQIA+. Et si vous voulez, ça fait partie de ça. Et les programmes de Sesame Street, en fait, sont des programmes qui s'incluent aussi dans ces valeurs, dans des valeurs en fait d'acceptation et de tolérance de la différence. Et c'est ce que ne supportent pas certains élus MAGA et certains conservateurs.
Est-ce que les programmes de Sesame Street, Anaïs Lefebvre-Berthelot, sont toujours utilisés dans les écoles, parce que ça a longtemps été le cas. Les professeurs s'en servaient comme support pédagogique.
Oui, alors bon, je pourrais pas vous dire ce qui se passe pile aujourd'hui, mais oui, en fait, c'est Sesame Street, et c'est une très bonne stratégie médiatique de la part de cet élu démocrate que de jouer un petit peu sur les affects en mentionnant Sesame Street et les différents personnages, puisque c'est vraiment une émission que tous les enfants aux États-Unis regardent, soit chez eux, soit à l'école, parce que comme ce sont, comme le disait Alexis Pichard, des émissions qui véhiculent des valeurs de tolérance, mais aussi de prévention sur des questions liées à la santé mentale, ouais, par exemple. Et ben ça va être très très mobilisé. Mais je voulais revenir un petit peu sur cette idée que tout ce qui resterait aux démocrates, ce serait ce type de provocation. À nouveau, je pense que c'est plutôt malin. Parce que ça montre aussi qu'ils ne sont pas dupes de la stratégie des républicains et des conservateurs de manière générale. Cette mise en scène des auditions devant la représentation nationale pour créer du buzz, pour recréer des séquences sur les réseaux sociaux, qui est quelque chose qu'on voit aussi en cours en France aujourd'hui même. C'est difficile en fait à contrer avec des arguments rationnels. Et il y a des arguments rationnels qui viennent aussi du camp républicain. Il n'y a pas un soutien massif des républicains à ces coupes budgétaires. Ce qu'il y a, c'est une mise au pas du parti républicain par les Trumpistes. Mais il y a eu des voix républicaines qui se sont opposées sur des critères tout à fait rationnels, en rappelant que les médias publics permettaient de desservir des populations qui n'étaient pas desservies par les médias commerciaux. C'est le cas en Alaska, c'est le cas des tribus amérindiennes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et il y a notamment une sénatrice républicaine, Lisa Murkowski d'Alaska, qui est la seule républicaine à avoir voté contre, parce que ces médias sont essentiels à la vie quotidienne et parfois à la survie, dans le cas de catastrophes naturelles, par exemple, de ces administrés. Mais ces arguments-là ne portent plus dans l'Amérique de Trump.
Est-ce qu'on entend certains défendre le fait que ces médias participent quand même à créer des références communes dans un territoire aussi vaste que les États-Unis? On entend bien ce que vous nous dites, Anaïs Lefebvre-Berthelot, sur l'importance de ces médias dans des territoires les plus reculés. Créer des références communes, aujourd'hui, ça paraît totalement anachronique dans un paysage audiovisuel aussi polarisé que celui des États-Unis.
Oui, effectivement, ça, c'est pour le coup, c'est pas un argument que j'ai entendu C'est pas un argument qui porte aujourd'hui, malheureusement, même si ça fait partie de la mission de l'audiovisuel public.
Alors, est-ce qu'on peut quand même préciser, Alexis Pichard, que les médias publics sont aussi critiqués à gauche en réalité? Ils ne sont pas que considérés comme un repère de gauchistes par la droite, ils sont aussi critiqués à gauche.
Oui, vous avez absolument raison, et c'est vrai que si on établit un peu le portrait robot des audiences de NPR et de PBS, on s'aperçoit que ce sont des spectateurs majoritairement blancs, qui ont un haut niveau d'études, qui sont assez aisés financièrement, et donc c'est vrai que les thématiques qui sont traitées sont parfois traitées par ce biais-là. En oubliant peut-être la diversité ethno-religieuse. En tout cas, il y a effectivement un prisme qui pose problème en fait à certains auditeurs ou téléspectateurs de gauche, effectivement, sur ces questions de représentation.
Alors, Alexis Pichard, qui aujourd'hui conseille et agit pour Donald Trump pour tout ce qui concerne les médias en général et l'audiovisuel public en particulier? Quelle est la place qu'occupe par exemple ce Brendan Carr, qui est directeur de la Federal Communications Commission, donc l'équivalent de l'ARCOM aux États-Unis? Il a vraiment un rôle central. Donald Trump lui laisse la main pour tout ce qui concerne l'audiovisuel en général et public en particulier?
Alors effectivement, c'est à la fois l'architecte et l'exécutant de la pensée médiatique de Donald Trump. Alors il a un rôle très particulier parce que c'est quelqu'un qui est à la FCC depuis 2017, donc il avait déjà été nommé par Trump, mais à un rôle un peu plus modéré, un peu plus inférieur en tous les cas. Et depuis que Trump est revenu, il occupe la tête, la présidence de la FCC, donc qui est, comme vous l'avez dit, l'équivalent de l'ARCOM, et il mène une cabale anti-média public, alors même qu'il est à la tête d'une autorité dont on pourrait penser qu'elle est justement indépendante et qu'elle a à cœur justement de faire appliquer une charte éthique, parce que la charte éthique de la FCC est très très dense. Et c'est quelqu'un qui finalement met en application une feuille de route ultra-conservatrice qui est celle du projet 25, à laquelle il a participé en tant que rédacteur.
Le projet de la Heritage Foundation.
Exactement, un think tank plutôt à l'extrême droite aux États-Unis et qui a pour but de définancer et de sabrer en fait les médias publics. Et depuis qu'il est arrivé, finalement, alors il s'en est aussi pris beaucoup aux médias privés et il s'en prend également aux médias publics. Alors l'une de ses premières décisions, ça a été d'opérer un audit des sponsorats des médias publics pour voir ce qui était légitime ou non, et donc pour essayer de les appauvrir également. Et il a pour but, voilà, de stopper le financement public de ces médias publics. Donc c'est vraiment une cabale idéologique qui est portée par quelqu'un qui est extrêmement investi dans le projet 25.
Brendan Carr, qui, comme vous le disiez, surveille aussi et contrôle et vient s'immiscer dans les programmes des chaînes de télévision privées. Il a eu par exemple la peau de l'humoriste Jimmy Kimmel, qui est un animateur d'une émission du soir très regardée sur CBS et qui avait récemment dénoncé la récupération politique que font les alliés Donald Trump de la mort de Charlie Kirk par exemple. Le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas exactement, son émission a été supprimée. Mais Jimmy Kimmel est revenu là récemment, il a réapparu à l'antenne.
Welcome back to Jimmy Kimmel Live. We are still on the air in most of the country, except ironically for Washington, D.C., where we have been preempted. We are off the air in Nashville, New Orleans, Portland.
Ouais, Jimmy Kimmel qui dit que son émission émet toujours dans les États-Unis en entier, mais plus à Washington, plus à Nashville, plus à Portland, etc., etc. Ou alors, parce que CBS est une chaîne nationale, est-ce que c'est possible ça de supprimer des fréquences de... Qu'est-ce qu'il veut dire exactement Jimmy Kimmel, Alexis Pichard?
En fait, CBS fonctionne comme PBS, c'est-à-dire que c'est un réseau, ce n'est pas une chaîne à part entière, c'est un réseau auquel des chaînes locales vont s'affilier. Et donc, dans des contrées ou dans des parties plus conservatrices, effectivement, les chaînes peuvent faire le choix de ne plus s'affilier, en tout cas de plus diffuser l'intégralité des programmes de CBS et notamment le talk show de Jimmy Kimmel. Et si je peux simplement revenir sur Brendan Carr, on pourrait se demander pourquoi Donald Trump n'a pas réussi à opérer la même chose durant son premier mandat, parce qu'il a eu les mêmes velléités entre 2017 et 2021. Comme l'a dit Anaïs tout à l'heure, effectivement, le Congrès, même à majorité républicaine, s'était opposé aux coupes budgétaires proposées par Donald Trump allant vers les médias public parce que c'était des républicains encore traditionnels et non pas trumpisés. Et la deuxième chose, c'est que le directeur de la FCC qui avait été nommé par Trump était un républicain traditionnel lui aussi et qui avait pour objectif justement de maintenir cette indépendance vis-à-vis du pouvoir présidentiel. Donc notamment sur la question du retrait des licences de diffusion, ce président de la FCC avait dit, en fait c'est pas mon rôle, je ne me laisse pas influencer par les décisions et les volontés présidentielles. Donc c'était un contexte très différent.
On a aussi remarqué, beaucoup ont remarqué fait, y compris et surtout dans les chaînes de télévision aux États-Unis, que Brendan Carr demandait toujours la démission d'un journaliste, présentateur, humoriste ou autre, au moment où la chaîne dans laquelle cette personne officie ou le groupe auquel elle appartient attend une décision importante de la part de la Federal Communications Commission, type acquisition de fréquences, rachat d'une chaîne, etc. Quand il a qualifié d'inadmissible le comportement de Jimmy Kimmel, par exemple, l'entreprise Nexstar, propriétaire de la chaîne ABC, attendait à ce moment-là un feu vert pour l'acquisition d'un de ses concurrents. J'ai dit CBS ou ABC, là, je sais, Jimmy Kimmel, il était sur ABC. Donc, tout à l'heure, j'ai dit CBS, je me suis trompée. En tout cas, à chaque fois que Stephen Colbert sur CBS, quant à lui ou d'autres, ont appris qu'ils étaient licenciés, en effet, toujours, ça coïncidait avec des moments charnières pour leur groupe qui, donc, les laissent un petit peu tomber. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Anaïs Lefebvre, Berthelot, que les médias en première ligne de la défense du pluralisme, de la rigueur, du contradictoire, ce sont des médias privés aux États-Unis.
Alors, je suis pas sûre, ils sont en première ligne, je suis pas sûre qu'ils fassent un très bon travail.
Il y en a qui le font, qui sont plutôt reconnus dans leur travail, CBS, NBC plutôt, non?
Oui, mais en fait, et je suis pas sûre que ce soit suffisant. Donc, c'est-à-dire, oui, ils sont en première ligne, mais notamment parce que le camp trumpiste est aussi stratège. Il va s'attaquer en priorité aux gens qui font de l'audience et qui sont populaires. Donc, pour ça, il y a une attaque de principe contre l'audiovisuel public, mais le gros des audiences, il est fait par des médias commerciaux, et où il va pouvoir y avoir de manière ponctuelle des actes de résistance, voilà, des soutiens à la pluralité. Mais parce que ce sont des logiques commerciales, parce que ils sont aussi sensibles aux pressions qui sont exercées par l'autorité régulatrice et donc par le gouvernement fédéral, ce sont aussi des institutions qui négocient. Donc, et ces négociations-là, elles se font avec l'objectif principal, c'est le profit et c'est pas la démocratie.
Est-ce qu'Alexis Bichard, vous avez déjà entendu des journalistes de ces médias privés défendre l'audiovisuel public aux États-Unis où ils le considèrent comme un concurrent déloyal de toute façon?
Non, alors je vous avoue que j'ai pas entendu de propos allant dans un sens ou dans un autre. Je pense qu'ils sont quand même à cœur de protéger des médias quoi qu'il en soit, parce que c'est une corporation, c'est un contre-pouvoir important aux États-Unis, donc ils font corps. Après, je voulais revenir simplement sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les logiques effectivement d'extorsion, en tout cas de compromission. Quand vous avez mentionné CBS, effectivement CBS attendait une validation de la FCC pour une fusion avec Skydance. Et juste avant, justement, il y a eu le procès vis-à-vis de 60 Minutes, l'interview de Kamala Harris durant l'élection de 2024, que Donald Trump a jugé
trop favorable.
Et donc 60 Minutes, en tout cas CBS, s'est plié et a fait un plea deal, c'est-à-dire a payé pour éviter un procès. Et la tête éditoriale de 60 Minutes a été limogée. Et ce qui a favorisé justement la validation en juin 2025 de cette fusion, qui a mené d'ailleurs David Ellison, qui était le propriétaire de Skydance, à la tête de CBS, sachant que David Ellison est un proche de Donald Trump, et donc la direction éditoriale de cette chaîne d'information a considérablement changé depuis lors.
Alors, avant de parler dans le focus des radios privées chargées aux États-Unis de rendre un service public, parce qu'il y en a comme les radios afro-américaines, eh bien, on écoute un titre qui a été plébiscité apparemment par les auditeurs de NPR, puisque le groupe a demandé à ses auditeurs quelles étaient les chansons qu'ils avaient le plus écoutées en 2025, et parmi elles, il y a ce titre Drop du chanteur Tunde Adebimpe.
Alt NPR. But will I feel it when I drop? Restless hours, the ticking of a clock on my life. In my life's just a dot on the timeline. In my soul. From the ceiling came a knock. Lightning strikes and my mind receives a shock. And my heart beats a spark of revival.
we're gonna feel it when we drop.
Drop de Tunde Adebimpe, c'est une chanson qui date de cette année et qui donc serait plébiscitée par les auditeurs et auditrices des radios de NPR. C'est le dernier épisode de notre série sur les audiovisuels publics, sur la sellette aujourd'hui aux États-Unis, des médias publics sans argent public, quand en parallèle des radios privées sont chargées de rendre un service public comme les radios, certaines radios afro-américaines.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
This is Percy Mayfield speaking to you from Hollywood. It's a real pleasure to invite you to keep your radio dial turned to 1070. Yes, indeed, 1070, that's it. That means WDIA, that's 50,000 watts of powerful entertainment for your pleasure.
Extrait de WDI, une radio de Memphis dans le Tennessee, créée en 1947. C'est la première station de radio à diffuser de la musique afro-américaine, du blues, ici Percy Mayfield, du gospel, de la soul. C'est une de ces radios privées sur lesquelles ont compté les gouvernements successifs pour fournir une mission de service public, en quelque sorte. Bonjour Tristan Pinel-Lebras.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorant en histoire à l'EHESS, au laboratoire des mondes américains. L'audiovisuel public est créé en 67, donc les lois de ségrégation en 64. À cette époque, qu'est-ce qu'on peut dire, Tristan Pinel-Lebras, de la représentation des minorités raciales dans les médias? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend notamment des Américains noirs sur les radios? Est-ce qu'on les voit à la télévision?
Oui, tout à fait. En fait, à partir de la fin des années 40, les Afro-Américains sortent principalement du sud rural dans lequel ils avaient été concentrés pendant très longtemps et déménagent dans les grandes villes pour suivre des emplois industriels, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'ils vont petit à petit constituer un marché intéressant pour les radios, puisqu'ils sont regroupés avec un pouvoir d'achat suffisant pour attirer des annonceurs. Et donc, à la fin des années 40, on va commencer à avoir des radios comme WDIA, que vous venez de citer qui essaiment à travers le pays dans les grandes villes, et qui vont permettre à des Afro-Américains d'animer des émissions, principalement de musique, jusqu'à la fin des années 60, avec une représentation assez importante des Afro-Américains sur ces radios, bien que jusqu'à cette époque, les managers et les propriétaires de ces radios restent majoritairement blancs. Et pour la télévision, c'est un peu plus compliqué.
Donc après les lois de déségrégation, plutôt les stations vont commencer à embaucher plus facilement des employés noirs, des responsables de stations aussi noirs, des propriétaires également. Et quant au contenu, est-ce que sont évoqués aussi sur les antennes des sujets qui concernent ou qui intéressent les auditeurs afro-américains ?
Alors en fait, à la fin des années 60, il va y avoir un mouvement de politisation très important qui touche la population afro-américaine dans son ensemble et qui va toucher l'industrie de l'audiovisuel privé, puisque dans les années 60, après la loi de 1964 qui met fin à la ségrégation raciale dans le Sud officiellement, les associations de militants pour les droits civiques vont se tourner vers d'autres thématiques socio-économiques et culturelles et vont cibler les médias, vont considérer que c'est un enjeu important pour assurer l'égalité raciale aux États-Unis. Et donc ils vont se mobiliser, ils vont mettre en place des manifestations, des piquets de grève, des boycotts de certaines radios, avec deux axes de revendication principaux. D'abord que les Afro-Américains accèdent aux positions de cadre, d'encadrement, de manager, de directeur de la programmation, mais aussi que des entrepreneurs afro-américains puissent racheter ces radios. Et ils vont aussi mettre l'accent sur un deuxième axe de revendication qui est la qualité des programmes et le fait que ces radios remplissent davantage une mission de service public au service des Afro-Américains, en évoquant la question de la pauvreté, du chômage dans les ghettos, ou bien en évoquant la question des discriminations raciales. Et donc, pendant très longtemps, ces radios-là, dans les années 40, 50 et au début des années 60, vous restez assez timide sur les commentaires polémiques, on va dire. Mais à la fin des années 60, on va commencer à avoir une véritable politisation de cette programmation, qui est par ailleurs soutenue par le gouvernement à cette époque et par la FCC, que vous avez évoqué plus tôt, et qui a à sa tête des dirigeants qui sont soutenus par les différents présidents pour aller sur cette question de la politisation. Il y a un slogan qui circule beaucoup à l'époque, qui est « Soul music is not enough », il faut faire plus pour le public afro-américain. Et donc, ensemble, ils vont, ces militants pour les droits civiques et la FCC vont forcer ces radios à remplir une mission de service public.
Et notamment, on entend à l'antenne, par exemple, des associations qui viennent présenter des bourses d'études, appeler à des levées de fonds et faire en sorte que l'argent disponible éventuellement ou les bourses d'études ne soient pas seulement à destination des publics blancs qui, eux, a priori, sont plus au courant et plus informés et à qui on fait plus facilement passer l'information. Donc, ils ont cette mission de service public que l'État exige d'elle. En échange de quoi? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fonds de l'État qui sont alloués à ces radios, ou ça reste vraiment privé?
Non.
Comment se manifeste le soutien?
En fait, il n'y a pas vraiment de soutien financier. Le contrat social de l'audiovisuel aux États-Unis, en fait, considère que l'État affirme sa souveraineté sur les ondes, mais accepte de céder temporairement cette souveraineté à des entreprises privées. Mais en échange, ils exigent des formes de services au public. Et c'est ce que vous avez évoqué. C'est, au fond, qu'est-ce que c'est que le service public? C'est surtout l'idée de chercher à fournir une programmation qui ne soit pas commerciale, qui ne cherche pas à faire de l'argent. Et donc, on encourage les stations à faire du localisme, à parler des problèmes locaux, à inviter les scouts, parler des élections pour les écoles, parler de faire des programmes éducatifs, des programmes religieux, etc. Et donc, cette exigence, elle est là depuis le début dans l'audiovisuel privé aux États-Unis, et l'État peut décider de mettre la pression à certains moments pour que ces radios remplissent cette mission. Ils l'ont fait à la fin des années 40, ils l'ont fait dans les années 60, et puis à partir des années 80, ils se sont largement désintéressés de cette question-là. Il y a eu tout un mouvement de dérégulation.
Les années Reagan,
tout à fait, et qui ont en fait été perpétuées par la suite. Ça n'a pas été remis en cause par les années Clinton, par exemple. Oui. On a un État qui s'est vraiment désengagé de ce côté-là. Et en parallèle, le mouvement pour les droits civiques, les associations militantes afro-américaines se sont aussi désintéressées de ces radios et de l'audiovisuel, notamment puisque la demande d'afro-américanisation, le fait que les directeurs de stations, que les managers et aussi en partie que les propriétaires soient afro-américains, cette demande, elle a été rencontrée. On a répondu à cette demande, ce qui fait que beaucoup d'associations militantes ne voyaient plus l'intérêt d'aller mettre la pression sur des radios qui les représentaient davantage dorénavant. Sauf que dans ce mouvement de dérégulation généralisée, avec une concentration industrielle très importante, beaucoup de ces radios ont été rachetées et au final, on a des radios qui se sont beaucoup plus tournées vers une recherche mercantiliste de profit et une baisse du service public.
Pour ces stations qui, pour certaines, ont fermé depuis, est-ce qu'on sait si leurs auditeurs, auditrices se sont tournés vers les radios publiques, pour faire le lien avec notre série et la première partie de cette émission? Est-ce que ce sont les mêmes? Et avec les mêmes attentes, les mêmes exigences?
Alors, ça, c'est pas aussi évident que ça. Aujourd'hui, les Afro-Américains écoutent les radios qui les ciblent particulièrement à une hauteur de à peu près 50%. La moitié des Afro-Américains sont restés fidèles à ces stations, environ. Alors que l'époque des années 60-70, on pouvait monter sur des chiffres à 80-90% selon les endroits. Les autres 50%, où sont-ils allés? Alors, c'est pas du tout ma spécialité, mais d'après ce que j'ai compris, il y a une petite partie qui a pu se rediriger vers les radios publiques, et notamment une partie de ces radios qui sont les radios universitaires et qui émettent depuis les campus d'universités qui sont tournés vers les Afro-Américains, ce qu'on appelle les Historically Black Colleges and Universities, donc des universités qui sont à majorité afro-américaines. Une partie de l'audience est allée de ce côté-là, mais une autre partie est surtout allée aujourd'hui vers les podcasts, en fait, et les réseaux sociaux, probablement, qui peuvent fournir un espace de discussion qui soit davantage tourné vers une discussion non commerciale.
Alors, pour conclure, Tristan Pinel-Lebras, puisque vous disiez que les associations noires américaines ne font plus pression sur les radios, disons, communautaires ou les radios privées, rendant ce service public dans les années jusqu'aux années 90 sur des auditoires davantage afro-américains. Est-ce qu'elles exercent en revanche une pression sur les autres radios, y compris publiques, pour qu'elles se diversifient? Il y a eu tout un débat aux États-Unis sur une journaliste, Ayesha Rasko, accusée de blanchir sa voix sur NPR. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça dit du débat qui existe encore, ou alors à moins que ce soit un épiphénomène?
Alors, de manière générale, il est vrai que les radios publiques, et notamment NPR, sont accusées de refléter, surtout d'aller chercher un auditoire essentiellement blanc, éduqué, ayant fait des études de classe moyenne supérieure, etc. Ce qui implique que les minorités raciales ne se sentent pas représentées par ces radios-là. Il y a effectivement de plus en plus de demandes davantage de diversité. C'est un projet qui a été porté depuis plusieurs années par NPR, notamment de mettre d'accorder une plus grande place à la diversité raciale sur ces ondes. Mais je n'ai pas eu le sentiment que c'est un combat qui a été beaucoup porté par des associations militantes afro-américaines particulièrement. C'est une question qui a été beaucoup portée par des milieux de gauche, essentiellement par des revues de gauche ou par des universitaires de gauche qui ont publié des travaux sur la blanchité de la radio publique notamment.
Et avec donc cette journaliste, Ayesha Rasko, en deux mots, parce que je n'ai pas tellement compris de quoi il retournait, mais ça a fait polémique qu'elle blanchirait sa voix à l'antenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui l'accuse de ça?
Alors, c'est plutôt des auditeurs afro-américains qui l'accuseraient de ça. C'est parce que, en fait, sur les radios traditionnellement qui ciblaient le public afro-américain, pour faire en sorte que le public s'identifie beaucoup, on a beaucoup accentué des traits caractéristiques pour se distinguer sur le marché, et notamment sur la voix. On a beaucoup insisté, les managers de radio demandaient à leurs animateurs de prendre une voix un peu très prononcée, avec des formes, un vocabulaire propre au milieu afro-américain. Et le fait de ne pas prendre cette voix, de ne pas chercher à reproduire cette voix caractéristique, fait d'emblée que si ce n'est pas une voix noire, dans ce cas c'est une voix blanche. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée accusée. Ce sont des polémiques qui reviennent assez régulièrement.
Et qui finalement sont plutôt moins intéressantes que tout ce qu'on a pu dire depuis le début, mais je voulais savoir de quoi y retourner. Je vous remercie beaucoup, Tristan Pinel-Lebras, d'avoir été avec nous, doctorant en histoire à l'EHESS au Laboratoire des Mondes Américains. Merci beaucoup. Merci. Ainsi que vous, Alexis Pichard, chercheur à l'Université Paris-Nanterre, vous avez écrit « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre » chez VA Éditions. Et merci à Anaïs Lefebvre-Berthelot, maîtresse de conférence à l'Université de Rennes 2, qui était en direct depuis ici, Armorique, avec Alan Lecornec à la technique. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Un homme qui avait filmé des centres de détention des Ouïghours en Chine risque d'être expulsé des États-Unis, Catherine.
Guan Heng, c'est le nom de ce dissident chinois de 38 ans, aujourd'hui défendu par des médias de tous bords politiques, de gauche comme de droite. Pour le New York Times, le Wall Street Journal, The Hill, ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont les valeurs mêmes des États-Unis. L'Amérique protège-t-elle encore ceux qui défendent la liberté au péril de leur vie, demande le Wall Street Journal, titre conservateur. Que vaut la vie d'un lanceur d'alerte qui a demandé l'asile aux États-Unis, interroge encore le Guardian de gauche. En 2020, Guan Heng, citoyen chinois, avait entendu parler de la détention et de la surveillance massive des Ouïghours en Chine, cette minorité musulmane persécutée notamment dans le Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, rappelle Nikkei Asia et la NPR, avec du travail forcé dans le textile, dans l'agriculture, des Ouïghours contraints notamment de récolter des tomates à un rythme infernal et sous la menace de coups, des tomates qui finissent dans des sauces vendues en Europe, comme l'avait révélé une enquête de BBC Investigation l'an dernier et dont nous avons parlé ici même. Guan Heng a voulu vérifier par lui-même si ces allégations de médias occidentaux sur la persécution de Ouïghours étaient fondées et il a pris le risque, souligne The Hill, de traverser la Chine en voiture jusqu'au Xinjiang où il a filmé clandestinement d'immenses centres de détention. Des images rares, souligne le New York Times, alors que Pékin parle de centres de rééducation volontaire. Guan Heng, journaliste citoyen incroyablement courageux, salue également un éditorialiste de The Hill qui écrit que documenter les atrocités des tyrans dans le monde est un travail essentiel. Guan savait que sa vie serait en danger s'il publiait ses photos et vidéos depuis la Chine et qu'il serait rapidement arrêté par les autorités, interrogé, détenu, torturé et peut-être même tué. Il a donc fui la Chine en se rendant en Équateur, puis aux Bahamas et finalement aux États-Unis, raconte la NPR. Il y a ensuite demandé l'asile en 2021, obtenu un permis de travail, gagnant sa vie notamment comme chauffeur Uber, raconte le Wall Street Journal. Mais en août dernier, alors qu'il vivait à New York, il a été arrêté par l'ICE, la police américaine de l'immigration. Crainte d'être renvoyé en Chine, indique le New York Times, indignation publique. Et en début de semaine, l'administration Trump a décidé de poursuivre malgré tout la procédure d'expulsion de Guan Heng, mais en l'envoyant dans un pays tiers, l'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est qui accepte les personnes expulsées des États-Unis, précise le Guardian.
Sauf que l'Ouganda entretient des liens étroits avec la Chine.
Risque donc d'extradition ensuite vers Pékin, alerte le Wall Street Journal, Nikkei Asia et The Hill, dont le journaliste libertarien Roby Soivé tient à médiatiser le cas Guan Heng.
I cannot imagine a more perfect example of someone who ought to be in this country, no matter how he came here.
Je ne vois pas d'exemple plus parfait de quelqu'un qui devrait vivre aux États-Unis, peu importe comment il y est arrivé, insiste Roby Soivé dans l'émission en ligne Rising, diffusée par The Hill. Ce journaliste, qui précise être sur une ligne dure en matière d'immigration illégale, affirme pourtant que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et toute l'administration Trump devraient tenir compte de la menace que représente la Chine pour le monde. Nous devons savoir ce que fait ce pays, dénoncer ses abus, sa tyrannie, affirme le journaliste de The Hill, et donc protéger des personnes comme Guan Heng qui documentent ces atrocités et non les livrer à leurs bourreaux. C'est le cas idéal pour une demande d'asile, affirme encore The Hill, une personne qui risque l'oppression dans son pays d'origine et dont le travail a été précieux pour les intérêts américains. Le Wall Street Journal s'engage également contre l'expulsion de Guan Heng des États-Unis. Est-ce là le message que le pays de la liberté veut envoyer au monde? Que vous risquez votre vie pour dénoncer les violations des droits humains, pour qu'ensuite l'Amérique, la patrie des braves, serve de force de police au parti communiste chinois, accuse le quotidien américain. C'est difficile à croire, mais en cette période d'expulsion massive qui ont bouleversé des vies et brisé tant de familles respectueuses des lois, tout est possible, poursuit un édito du Wall Street Journal. Alors avant une prochaine audience judiciaire fixée en janvier prochain pour Guan Heng, le Wall Street Journal espère qu'il obtienne l'asile et puisse vivre librement dans son pays d'adoption qui fut jadis et doit demeurer un phare de la liberté.
Enfin en Iran, les autorités refusent un examen médical indépendant sur la prix Nobel de la paix 2023.
Narges Mohammadi a des ecchymoses au cou et au visage. Elle a été frappée à coups de matraque par la police iranienne lors de son arrestation vendredi dernier, rapporte Iran International, alors que la prix Nobel de la paix avait pris la parole lors d'une cérémonie organisée dans l'est de l'Iran en hommage à un avocat retrouvé mort, lui, début décembre. Rosrow Ali Kordi avait défendu notamment des manifestants réprimés lors du mouvement Femme, Vie, Liberté. La cérémonie d'hommage en son nom a vu une quarantaine d'arrestations la semaine dernière, dont le frère de cet avocat, rapporte la BBC, Iran International. Amnesty accuse les forces de sécurité iraniennes d'avoir commis des actes de torture et d'autres mauvais traitements, notamment en passant à tabac Narges Mohammadi.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, Mélanie Chalandon et ses invités parleront du Venezuela, le régime de Nicolas Maduro face aux pressions des États-Unis avec Thomas Posado et Fabrice Andréani. Une table ronde précédée d'un retour de Bosnie avec le journaliste Nicolas Skopinski du Figaro Magazine, auteur d'un reportage sur les traces des joueurs stars de la NBA originaires des Balkans. Dans un instant, les Midi de Culture.